WTO Kids Promise WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Aujourd'hui, nous recevons Laurent Delbos de l'association Forum Réfugiés COSI.
Entre Forum Réfugiés et une autre association qui s'appelait COSI. Donc maintenant, on parle de Forum Réfugiés COSI comme une seule unique association. Donc c'est une association qui a été créée en 1982, donc il y a plus de 30 ans, et qui a pour objet principal la défense et la promotion du droit d'asile. C'est-à-dire que concrètement, l'activité principale de l'association, c'est de gérer des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc soit des CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, soit des centres d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Il y a aussi une autre activité de l'association qui est de gérer des dispositifs pour l'intégration des réfugiés. Donc on parlera tout à l'heure, je pense, des différences entre les termes, mais c'est les personnes qui ont obtenu une protection et qui ont aussi besoin d'un accompagnement et d'un suivi une fois qu'ils ont eu la protection pour s'insérer dans la société française, accompagnement vers l'emploi, vers le logement notamment. Forum Réfugiés est aussi présent en centre de rétention administrative. Depuis 2010, donc c'est une mission qui consiste à assister et accompagner les demandeurs d'asile qui sont en centre de les étrangers qui sont en centre de rétention, qui sont pas demandeurs d'asile pour le coup, et qui sont donc en instance d'éloignement, qui sont en cours d'éloignement, et la présence de l'association permet de les aider pour faire les recours, notamment toutes les démarches juridiques en centre de rétention. Donc on est présent en centre de rétention à Lyon, à Nice, à Marseille. Et depuis quelques mois, aussi en Languedoc-Roussillon, à Perpignan, à Nîmes et à Sète. Pour les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, pour l'accueil des demandeurs d'asile, c'est principalement en Rhône-Alpes, mais on a aussi quelques dispositifs en Auvergne et dans le Limousin. Donc voilà un peu sur les principales activités. Puis après, il y a quelques dispositifs un peu spécifiques. On a un centre de santé, notamment à Villeurbanne, qui est dédié aux personnes qui sont victimes de traumatismes liés à l'exil. Donc c'est des centres de santé comme il en existe très peu en France malheureusement, alors qu'il y a un besoin qui est très très important. On a aussi un centre de documentation, donc le centre de documentation qui permet à toute personne qui accompagne les demandeurs d'asile de se rendre dans ce centre de documentation et de se renseigner sur la situation dans les pays. Donc il y a plein de documents, de journaux, de
sur les pays d'origine
et notamment.
Il est ouvert à tous ce centre de documentation.
Voilà, il est rue Garibaldi dans le 7e.
Et la plupart de ces activités, elles sont faites pour le compte des institutions ou...
Oui, alors c'est vrai que la particularité de l'association, c'est d'être gestionnaire de dispositifs qui sont des dispositifs qui pourraient être gérés par les pouvoirs publics et que les pouvoirs publics délèguent aux associations. Donc c'est des délégations de services publics en réalité qu'on assure avec ces missions. Donc le financement de ces missions vient en totalité ou presque de l'État ou de l'Union européenne aussi sur certains financements. Je vous ai pas parlé aussi tout à l'heure d'un petit dispositif d'accompagnement pour les mineurs isolés étrangers aussi qu'on a à Forum Réfugiés. Donc c'est une convention avec le Conseil général du Rhône du coup qui permet de faire un suivi juridique la situation des mineurs isolés étrangers. Là pour le coup c'est un financement qui vient du Conseil général. Et à côté de toutes ces activités opérationnelles, en fait, pour compléter la présentation, on a aussi toute une partie qui est plaidoyer, expertise, c'est-à-dire que on se sert de tout ce qu'on constate et qu'on gère au quotidien pour aussi développer une expertise sur qu'est-ce que c'est que le droit d'asile, le droit des étrangers aujourd'hui, quelles sont les améliorations qui devraient être apportées, et c'est tout ce qu'on appelle le plaidoyer.
Ce qui vous permet par exemple d'intervenir au moment où des lois sont faites pour
donner
votre avis.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des lois qui sont discutées au Parlement, nous on réagit aux lois, c'est-à-dire qu'on analyse les textes, donc on fait un suivi, tout un suivi de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité de l'asile et des migrations en général. Et puis quand ça nous semble important de réagir parce qu'il y a un texte qui nous semble pas adapté, ou même s'il y a des choses qui sont bien, on le dit aussi, on souligne ce qui est important de conserver dans les textes. Donc on fait tout ce suivi-là, soit à notre initiative, mais on est aussi souvent sollicité par des parlementaires qui ont besoin aussi de cette expertise. C'est-à-dire que c'est pas seulement Forum Réfugiés qui décide d'écrire un rapport, une note ou de faire des propositions d'amendement sur tel ou tel texte. C'est aussi dans le cadre démocratique habituel, il y a aussi toutes ces commissions qui auditionnent les experts dans le domaine concerné. Et donc dans ces situations-là, on est auditionné à l'Assemblée nationale et au Sénat notamment, mais ça peut aussi être par d'autres instances, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ça peut être des instances européennes, ça peut être les Nations unies, voilà, ça peut être tout un tas d'instances qui cherchent des interlocuteurs qui connaissent le sujet et qui sont pas justement dans une perspective politique, mais dans une perspective vraiment d'expertise sur le droit d'asile et sur le droit des étrangers.
Et puis il y a également, vous êtes une association, donc avec des adhérents, des bénévoles et une certaine militance. On pense notamment à la marche des réfugiés, la marche des parapluies.
Oui, voilà. Donc toute cette activité, effectivement, de plaidoyer dont je viens de parler, c'est aussi une activité qui est de sensibiliser aussi l'opinion publique sur la nécessité de protéger les réfugiés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le droit d'asile? Qu'est-ce que ça représente? Qui sont ces personnes? Quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés? Donc pour ça, il y a aussi effectivement une activité à destination du grand public et c'est la marche des parapluies que vous évoquiez. Effectivement, c'est une marche qu'on organise tous les ans le 20 juin. Donc le 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié. Et donc on fait une marche dans les rues de Lyon on ouvre les parapluies pour signifier qu'il y a une nécessité de protéger les réfugiés. Donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'on marche dans Lyon et il y a les personnes qui, surtout quand il fait beau en fait, parce que quand il fait beau, les gens se demandent pourquoi il y a 500 personnes qui sont là dans les rues avec un parapluie blanc ouvert. Donc les personnes se retournent, nous demandent ce que c'est, on leur donne des documents, on leur explique. Donc c'est vraiment des moments qui permettent effectivement de sensibiliser les gens et de leur expliquer un peu en détail des choses qui sont souvent vues très rapidement dans les médias ou un peu caricaturées par les politiques. Donc voilà, ça permet d'avoir ces moments-là, oui, qui sont assez, assez précieux.
Et l'organisation des fois de conférences aussi?
Oui, effectivement, et aussi ça nous arrive d'intervenir, donc soit on peut être sollicité pour des conférences dans les universités, mais ça peut aussi être dans les écoles, enfin des fois on peut intervenir auprès des jeunes, auprès, voilà, tout un tas de structures nous sollicitent justement avec cette idée que Forum Réfugiés connaît cette question-là et donc nous propose de venir en parler, comme la démarche que vous avez pu faire pour nous inviter aussi ici à cette émission, c'est aussi un peu cette démarche-là de solliciter pour avoir un peu plus d'explications sur des questions dont on entend pas mal parler en ce moment.
J'ai une petite question sur la manière de sensibiliser les personnes au problème des réfugiés. Moi qui viens de Clermont-Ferrand, j'ai pratiqué le marrainage ou le parrainage. Je ne sais pas si vous faites ça aussi à Lyon. Puisque c'est une manière aussi d'engager, faire un parrainage civique, oui, enfin c'est une sorte de baptême républicain, et donc on le fait beaucoup dans le Puy-de-Dôme. Ça permet de sensibiliser aussi les élus politiques, mmh. Puisque c'est une cérémonie qu'on fait en mairie, et donc les parrains, les marins, les marraines s'engagent à bien sûr après à s'occuper des demandeurs d'asile.
Mmh. Non, nous on n'a pas ce type d'action. Après, c'est vrai que chaque, il y a des choses très bien qui se font dans d'autres associations. Oui. Donc effectivement, on n'a pas de volonté de faire des choses si elles se développent déjà par ailleurs. Après, c'est vrai que pour la présentation de Forum Réfugiés par rapport à d'autres associations, c'est vrai que on est avant tout des gestionnaires de dispositifs. C'est quand même ce qui distingue d'autres associations aussi, c'est que du coup on est très, voilà, il y a plus de 200 salariés à Forum Réfugiés, donc c'est une association qui est très professionnalisée. Il y a aussi plus de 200 bénévoles, mais finalement par rapport avec le nombre de salariés, c'est peu par rapport à d'autres associations qui se basent plus sur le bénévolat. Du coup, l'activité de Forum Réfugiés est quand même concentrée sur la gestion des dispositifs et de bien assurer les missions qui nous sont confiées. Donc quand on fait appel à des bénévoles, c'est aussi généralement pour compléter l'activité de ces dispositifs, c'est-à-dire que c'est plutôt des bénévoles pour gérer l'animation dans les centres, pour nous aider sur des cours de français qui sont pas forcément financés ou des choses comme ça sur lesquelles on fait appel à des bénévoles. Mais après, les actions comme ça un peu plus citoyenne un peu plus large. Il y a surtout la marche des parapluies, mais c'est pas une activité qu'on fait tout au long de l'année comme peuvent faire d'autres associations comme la CIMAT, comme RESF, comme des associations comme ça qui sont plus impliquées dans cette alerte citoyenne au quotidien.
Et puis vous avez aussi toute une partie qui est aussi liée, enfin, au pays d'origine, ne serait-ce que par l'information ou par le plaidoyer.
Oui, il y a aussi cette et c'est aussi historiquement grâce à l'activité du COSI aussi, hein, qui était une association de solidarité internationale. Donc du coup, on a aussi cette particularité dans le Forum Réfugiés de travailler en lien avec les pays d'origine. Et puis donc actuellement, par exemple, on a un projet avec les collectivités territoriales françaises qui vise à sensibiliser ces collectivités territoriales sur la nécessité de prendre en compte les problématiques liées aux droits de l'homme dans leur projet de coopération décentralisée. C'est-à-dire que quand telle municipalité française va signer un accord de coopération avec telle municipalité du Burkina Faso, par exemple, Forum Réfugiés, on développe un travail auprès des collectivités pour qu'elles s'assurent effectivement qu'elles mettent dans tous ces programmes des questions liées aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux. Voilà. Donc c'est partie des activités qu'on fait à l'international. Après, on se fait aussi parfois des missions dans les pays d'origine des demandeurs d'asile, pour voir par nous-mêmes aussi quelles sont les problématiques sur place et puis faire aussi nous-mêmes nos propres rapports. C'est-à-dire pas seulement se dire on va défendre les demandeurs d'asile en demandant le rapport de telle ou telle organisation sur comment ça se passe dans ce pays, mais aussi pour avoir nos propres outils à nous d'expertise sur, voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Albanie, ben on a été il y a quelques temps en Albanie, on sait un peu plus précisément quelle est la situation en Albanie par exemple, ou en République démocratique du Congo, qui est un pays avec lequel on a pas mal de liens aussi, et que c'est un pays important de demande d'asile en France. Voilà, donc c'est cette activité internationale effectivement qui caractérise aussi Forum Réfugiés COSI.
Et donc, ce qui doit vous permettre aussi, dans le cadre du plaidoyer, d'avoir une argumentation quand on doit définir ce qu'on appelle les pays sûrs, ou pas.
Oui, c'est une des questions effectivement qui se pose sur la question des demandeurs d'asile, sur les pays d'origine sûrs, qui sont des pays qui empêchent pas de demander l'asile, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut demander l'asile même quand on vient de ces pays-là, mais il y a moins de garanties qui sont données aux personnes, notamment des garanties procédurales. La demande est traitée plus rapidement parce que les instances d'asile partent du principe que c'est des dossiers qui devraient aboutir à une absence de protection a priori, puisque c'est des pays sûrs, mais il y a quand même une instruction qui est faite. Mais effectivement, c'est une question sur laquelle Forum Réfugiés se positionne régulièrement. Quand il y a des nouveaux pays qui sont inscrits sur la liste ou des enjeux par rapport à ça, effectivement, on se positionne sur ça avec cette expertise particulière de connaître un peu plus spécifiquement la situation dans les pays d'origine.
Ce que je pense, c'est qu'on continue un petit peu justement avec l'actualité des derniers mois sur la question des réfugiés en Europe, les effets des conflits qui se sont accentués, et également la réalité des mesures qui ont pu être prises ou qui sont en passe d'être prises par les différents gouvernements.
Ouais, alors vaste question, mais je vais essayer de commencer par un bout et puis vous me poserez des questions plus précises si besoin par rapport à ce que je dirais. Donc effectivement, aujourd'hui, en novembre 2015, et c'est pas tout récent finalement, mais je dis aujourd'hui parce que c'est plus spécifique encore en cette fin d'année, on est dans une situation assez exceptionnelle du point de vue des migrations internationales. Et le principal enjeu aujourd'hui au niveau de l'Europe est de la France, même si on verra après que la France pour l'instant est un peu à la marge de tout ça au niveau de l'impact, en tout cas sur les arrivées de personnes, c'est le conflit en Syrie. Donc c'est le conflit en Syrie donc qui a éclaté en 2011 avec un conflit qui a fait que s'aggraver et devenir de plus en plus complexe avec au départ les forces gouvernementales, les rebelles, puis après l'État islamique. Enfin voilà, du coup on est dans une situation de chaos total dans ce pays, un chaos qui a provoqué du coup le déplacement de environ 12 millions de personnes en Syrie. Donc la majorité de ces personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'ils ont fui une situation de conflit à l'intérieur du pays et sont allés se réfugier dans une autre partie du pays. Ça concerne à peu près 8 millions de personnes qu'on appelle les déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils sont déplacés, ils n'ont pas le choix, ils fuient une situation de conflit, mais ils arrivent à trouver refuge à l'intérieur de leur pays.
Mais même en général, quand on a l'impression que tous les réfugiés viennent en Europe, mais en fait la plupart des réfugiés dans le monde sont généralement déplacés dans leur pays ou les pays avoisinants, et ils ne sont pas tous...
Ouais. Donc voilà, il y a 8 millions de déplacés internes, effectivement, donc c'est important aussi d'avoir ça en tête, que tous les gens viennent pas. Et après, il y a 4 millions de Syriens environ, c'est des estimations, c'est compliqué à estimer. Globalement, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui enregistre les personnes dans les camps, etc. Donc on arrive à avoir des statistiques, mais ça reste des estimations. À peu près 4 millions de Syriens qui sont en dehors de leur pays, donc qui ont cherché refuge en dehors de leur pays. Et c'est vrai que sur ces 4 millions de Syriens, bah, l'essentiel, la grande majorité est en Turquie, avec près de 2 millions de Syriens qui sont en Turquie, au Liban, avec 1,5 million de personnes au Liban, et en Jordanie. Donc on est sur effectivement une problématique qui touche avant tout les pays frontaliers de la Syrie, et les personnes qui arrivent en Europe, finalement c'est très peu par rapport à ça. Je vous disais sur le Liban, pour le Liban ça représente plus d'un quart de la population du Liban, qui sont des réfugiés syriens. Donc un quart de la population, voilà, rapporté à la France ou à l'Europe, on n'en est pas du tout sur ces proportions-là. Et à l'échelle plus large, enfin pour terminer juste sur la Syrie, parce que c'est vrai qu'on parle depuis 2011, donc on se pose la question, bah oui, aujourd'hui 2015, pourquoi il y a particulièrement une explosion en 2015? Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2014, on était déjà un peu dans cette dynamique-là de demande d'asile qui était particulièrement importante en Europe, avec un peu plus de 600 000 demandes d'asile. Il y avait une augmentation de 45% des demandes d'asile en Europe entre 2013 et 2014, avec principalement la question des Syriens qui provoquait cette augmentation. Et donc en 2015, finalement, on est dans la continuité de ce mouvement-là, avec une actualité qui a été, bon, même sur la question des personnes, des naufragés en mer, etc., c'est pas récent, hein. Finalement, on a déjà, il y a plus d'un an, ça avait fait la une de l'actualité en octobre 2014, voilà, donc c'est des, et puis bon, c'est pas nouveau finalement ces questions, mais c'est vrai que pendant l'été, ça a pris une ampleur particulière, il y a eu beaucoup de médiatisation de ces questions, on entendait régulièrement, voilà, les personnes qui arrivent en Grèce, qui arrivent en Italie, et puis médiatisation particulière avec la publication de la photo du jeune enfant échoué sur la plage, qui a provoqué du coup vraiment un virage dans cette question de traitement des demandeurs d'asile, un virage plutôt positif, hein, avec une mobilisation citoyenne, une prise de conscience un peu des pouvoirs publics aussi, de la nécessité.
Lié à l'opinion,
c'est ça. Oui. Donc c'est, on en pense ce qu'on veut. Le résultat, en tout cas, il est là, c'est qu'il y a une prise de conscience et des propositions qui sont venues suite à ça. Après, on en pense ce qu'on veut, parce que c'est vrai que ça reste assez étrange et critiquable que on passe des mois, des années à plaider justement pour l'amélioration de ces conditions, à alerter les pouvoirs publics en disant attention, il y a ces questions-là qui se posent, il faut mettre en place des choses un peu sur le long terme, pas être dans l'urgence, etc. Et puis tout d'un coup, tout le travail qu'on a fait, on a l'impression que c'est pas ça qui va changer les choses, mais c'est juste
qui va déclencher,
voilà, ce qui déclenche, voilà, effectivement, ce qui déclenche, c'est les médias et puis le buzz autour de tout ça. Mais
il y a une double médiatisation en ce moment, parce qu'il y a les réfugiés en provenance de, enfin, ceux qu'on appelle les réfugiés en provenance de Syrie, il y a aussi Calais. Et comment tout ça s'inscrit, parce que quand on écoute les grands médias, on entend parler des réfugiés, des migrants, enfin on fait, je pense qu'il y a beaucoup de confusion et que les médias entretiennent beaucoup de confusion et finalement une forme de peur aussi par rapport à l'arrivée de ces personnes. Ouais. Vous avez rappelé les chiffres, finalement.
Puis la question de la définition, on a l'impression qu'un migrant, c'est pas pareil, c'est moins bien qu'un réfugié. On entend même aussi des choses, voilà, un réfugié, suivant le pays d'où il vient, il sera plus réfugié que d'autres, ou du moins que ce sera pratiquement systématique, et qu'on ne parle plus du tout, par exemple, de ceux qui passaient par l'Espagne. Mmh. Où il y avait également aussi des gens qui mouraient en mer autour du détroit de Gibraltar. Ouais.
Alors, donc sur la question, juste pour terminer sur la situation un peu exceptionnelle dans le monde, et puis après, du coup, je répondrai à votre question sur les termes. Ce sera lié en fait à tout ce que je vais dire aussi. Pour terminer juste sur la question syrienne, et puis après un peu plus largement sur la question syrienne, ce qui provoque un afflux important de personnes actuellement, c'est pas tant la. Enfin, c'est d'une part la situation en Syrie qui se complique de plus en plus. Donc les personnes qui étaient partis même depuis quelques années, qui attendaient dans les pays frontaliers, n'ont plus de perspective de retour. Donc il y a récemment, en tout cas, et ça c'est nouveau, plus de personnes qui quittent la région au sens large, en disant on était là temporairement dans un camp de réfugiés au Liban en attendant que ça s'améliore en Syrie. Voilà, on était là en 2012, en 2013. Voilà, là maintenant on se rend compte que c'est plus, il y a plus trop d'espoir de retour. Donc c'est en ça qu'il y a un peu une évolution de la situation quand même, et puis aussi la situation dans ces camps et dans ces pays-là qui se durcit aussi, parce que la situation dans les camps, bah les camps sont saturés aussi, donc il y a plus de place, il y a moins de, les conditions d'accueil sont plus compliquées, il y a moins d'accès à la nourriture aussi pour les personnes qui sont dans ces camps. Donc une situation dans laquelle avant les gens arrivaient à peu près à vivre ou à survivre dans les camps au Liban, en Jordanie, en Turquie, la situation dans ces pays se complique aussi, parce que
il y avait déjà des camps de réfugiés, je pense aux réfugiés palestiniens.
Oui, il y avait déjà des camps de réfugiés, et c'est des pays qui déjà assuraient une mission importante d'accueil de ces personnes, mais du coup il y a eu des mouvements de fermeture un peu de frontières aussi, y compris de la part de ces pays qui ont verrouillé un peu les frontières avec la Syrie, parce que pour freiner cet afflux de personnes, et puis des mesures qui ont été prises aussi qui limitent l'accès à la scolarisation par exemple, des choses comme ça qui font qu'en tout cas les conditions générales et puis le point principal surtout l'accès à un logement et à la nourriture, parce que c'est des programmes des Nations Unies pour nourrir, mais qui n'ont pas assez de financement. Donc les personnes, il n'y a pas assez de financement pour nourrir tout le monde. Donc les personnes qui étaient dans ces pays-là ont décidé de gagner l'Europe. Donc c'est ça un peu qui est la nouveauté depuis cet été, cette fin d'année, ce mouvement important. Et plus globalement, ce qu'ont pointé les Nations Unies, c'est que 2014 était une année exceptionnelle en termes de déplacement de population. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que dans le monde, il y avait à peu près 60 millions de personnes qui étaient déplacées, déracinées. C'est-à-dire, je dis déracinées parce que c'est un terme assez générique. Ça comprend les personnes qui cherchent refuge dans un autre pays, ça représentait à peu près 20 millions de personnes, mais aussi les personnes qui étaient déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais qui sont quand même des personnes qui sont déracinées et qui doivent partir, ça représentait un peu plus de 30 millions de personnes, et puis toutes les personnes qui sont en instance de demande d'asile. Voilà, donc ça représente 60 millions de personnes, et c'est le chiffre le plus élevé, ça c'est les chiffres 2014, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est effectivement en 2014-2015, 2015 ça va s'accroître hein, cette situation, là c'était les chiffres de 2014, je vous citais. On est effectivement dans une situation exceptionnelle, et parce qu'il y a la Syrie, mais il n'y a pas que la Syrie, il y a aussi l'Irak, il y a aussi l'Afghanistan, il y a aussi le Soudan, il y a aussi l'Érythrée. Voilà, il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des conflits qui provoquent des mouvements de population, des personnes qui ne peuvent plus rester dans leur pays et qui n'ont pas d'autre choix que de partir. Et quand on est en Érythrée et qu'on veut fuir son pays, ben on va au Soudan, et la situation au Soudan elle est pas bonne non plus. Donc une fois qu'on est au Soudan, la prochaine étape c'est l'Europe. Donc c'est pour ça que un certain nombre de personnes arrivent en Europe, mais c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure et c'est important d'avoir ça en tête. Il y a 86% des personnes dans les 60 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient réfugiées dans les pays frontaliers. Voilà, donc les personnes qui viennent en Europe ou aux États-Unis ou au Japon ou en Australie, dans les pays riches, ça concerne une toute petite partie de ces personnes qui se déplacent. Ces personnes qui se déplacent, elles vont avant tout dans les pays frontaliers avec l'espoir de revenir. Voilà, c'est des personnes qui souhaitent pas à tout prix rejoindre l'Europe. C'est des personnes qui veulent avant tout se protéger et se mettre en sécurité. Et si on peut se mettre en sécurité dans le pays d'à côté, on se met en sécurité dans le pays d'à côté. Pour répondre à votre question, du coup, sur la question des termes, effectivement, c'est une question importante. Le terme le plus global, c'est de parler des migrants. Les migrants, c'est les personnes qui migrent, tout simplement, donc, quelle que soit la raison. Quand on parle d'un migrant, on qualifie pas la raison pour laquelle il a migré, en fait. On dit, il est migrant, c'est-à-dire qu'il a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Mais un Français qui va s'installer à Montréal, c'est un migrant aussi. Voilà, donc c'est un migrant. Après, parmi ces migrants, il y a des personnes qui migrent pour des raisons économiques, on va dire, c'est-à-dire des personnes qui cherchent une vie meilleure, là aussi, comme ça s'est fait de tout temps et comme toutes les personnes cherchent souvent la vie la meilleure pour eux, et donc du coup ils voient quelles sont les perspectives qui sont mieux pour eux et pour leur famille. Donc c'est ce qu'on peut appeler des migrants économiques, mais ça en réalité je dis ce qu'on peut appeler parce qu'il y a pas de, c'est pas une catégorie juridique quoi, les migrants économiques c'est un terme commun qu'on peut entendre. Et ensuite, une autre catégorie qui est la question des personnes qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés. Alors, dans cette catégorie-là, c'est les personnes qui fuient leur pays parce que ils fuient une situation de conflit ou de persécution, c'est-à-dire qu'ils craignent en gros pour leur vie dans leur pays d'origine.
Et par exemple, une situation d'extrême pauvreté, famine, qui n'est pas forcément un conflit. Est-ce que c'est qualifié d'économique quand on a
met sa vie... C'est qualifié d'économique, effectivement.
Est-ce qu'on met sa vie en danger en restant aussi ?
Oui. Mais c'est la particularité de définition que vous souleviez, mais c'est vrai qu'il y a une... Quand on parle de migrants économiques, je dis ça répond à aucun cadre juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des droits qui vont en face du statut de migrant économique. Il y a plusieurs situations et plusieurs dispositions du droit des étrangers qui vont s'appliquer à ces personnes. Par contre, l'autre catégorie de personnes, les demandeurs d'asile ou réfugiés, je vais vous dire après la distinction encore entre ces différents termes, mais les personnes qui fuient des persécutions, les persécutions, elles sont listées dans un texte qui s'appelle la Convention de Genève de 1951, qui a été complétée par le droit européen, qui a donné aussi une notion de protection subsidiaire. Donc, Convention de Genève, elle cite 5 types de persécution. Donc, c'est les personnes qui sont persécutées soit pour du fait de leur race, donc on parlait de race dans la Convention de Genève en 1951, pour leur nationalité, pour leur... pour leur ethnie, enfin pour leur appartenance ethnique, ou pour leur activité politique, ou pour leur appartenance religieuse politique, excusez-moi, parce que du coup je confonds un peu tous les l'ethnie, ça se met avec la nationalité, etc. Ensuite, vous avez critères politiques, critères religieux, ou une dernière catégorie qui est l'appartenance à un certain groupe social. L'appartenance à un certain groupe social, c'est une notion assez large. Ça concerne par exemple les personnes qui sont homosexuelles dans un pays dans lequel les homosexuels risquent la peine de mort. C'est le groupe social des homosexuels dans tel pays, où les femmes qui craignent les mutilations génitales, par exemple, c'est considéré comme un groupe social dans un pays. Donc il y a ces critères de la Convention de Genève qui ont été complétés par le droit européen, par le statut de la protection subsidiaire, qui s'adresse aux personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, mais qui risquent soit des tortures ou traitements inhumains ou dégradants, soit qui fuient un conflit généralisé dans leur pays, soit qui risquent la peine de mort en rentrant dans leur pays. Donc, il y a toutes ces catégories qui sont citées et qui permettent que ces personnes bénéficient d'un statut plus protecteur que les autres. Alors en fait, on pourrait se poser la question, c'est un peu en filigrane la question que vous posez, de dire bon bah il y a des personnes qui sont des catégories de personnes qui sont protégées, d'autres pas. En réalité, c'est plutôt la base, c'est que les États, dans l'organisation actuelle des États du monde, choisissent qui font venir ou qui font pas venir selon une politique migratoire de l'État. Là, tout ce que je viens de vous citer sur les réfugiés et les demandeurs d'asile, ça vient en dehors de ça. C'est-à-dire que c'est une protection supplémentaire pour des personnes sur lesquelles c'est du droit international, du droit européen. Ça appartient pas aux États de dire la France peut dire je vais accueillir tant d'étudiants cette année sur tel ou tel critère, je vais accueillir tant de personnes qui viennent pour tel ou tel métier. Par contre, elle pourra pas dire je vais accueillir tant de demandeurs d'asile et je vais fixer mes critères de la demande d'asile. C'est quelque chose qui permet de protéger au-delà de la volonté de chaque État de choisir ses flux migratoires.
Donc, comment ça s'articule avec les négociations pour accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés qui ont eu lieu en Europe ?
Alors, sur la question de l'Europe, c'est des mesures, c'est pour répondre du coup à la question que vous avez posée aussi sur quelles ont été les réactions qu'il y a eu à ce mouvement migratoire particulier. En Europe, donc, il y a eu des propositions de la Commission européenne qui étaient de mettre en place un système de relocalisation, c'est-à-dire de partir du principe que les personnes arrivent avant tout par la Grèce et par l'Italie, qui sont les deux principaux points d'arrivée des personnes en Europe, et que ces pays ne peuvent pas accueillir tous ces demandeurs d'asile. Et donc l'idée, qui est plutôt une idée qu'on trouve intéressante à Forum Réfugiés COSI en tout cas, c'est l'idée de se dire il faudrait une répartition de ces personnes au sein de l'Union Européenne. Parce que voilà, quand on parle de 700 000, 800 000, 1 million de personnes qui arrivent, à l'échelle de la Grèce ou de l'Italie, c'est énorme et c'est pas possible de gérer ça, ou même à l'échelle d'une petite île grecque, c'est extrêmement compliqué. Par contre, à l'échelle de l'Union européenne, avec ses 500 millions d'habitants, ça devient tout de suite beaucoup plus gérable, avec une mutualisation des moyens. Donc du coup, ce qui a été proposé par la Commission européenne, c'est de mettre en place une clé de répartition à des 28 États de l'Union européenne qui porterait sur plusieurs critères. Donc il y a parmi les critères le taux de chômage dans le pays, le nombre de demandeurs d'asile qui sont déjà accueillis, le PIB, donc la richesse du pays. Donc il y a tout un tas de critères qui ont été mis en place avec une clé de répartition et qui aboutit à dire tel pays accueillera X% du nombre que sur lesquels les États vont se mettre d'accord pour relocaliser.
Ce sont des quotas.
Oui, enfin c'est un peu un faux débat sur les quotas parce que il y a eu vraiment des débats sémantiques pour dire c'est des quotas, c'est bon dans un sens peu importe, c'est une question de savoir combien en fait c'est des quotas mais qui dépendent de ça dépend du nombre qu'on va décider. Si on décide d'accueillir 10 000 personnes, de relocaliser 10 000 personnes, ça fera très peu pour chaque État. Et si moi je vous avoue que j'ai pas bien compris le sens de cette polémique qui était très politicienne, quoi, qui était pour
c'est vrai que c'était très politique.
Pour dire est-ce que c'est des quotas, est-ce que c'est pas des quotas. Les gens se posaient la question et mettaient en avant la question avant même de se poser la question de savoir précisément de quoi il s'agissait, quoi. Donc là la question de savoir précisément de quoi il s'agit, c'est effectivement un nombre qui est décidé par les États, de dire on va relocaliser tant de personnes. Donc là aujourd'hui on en est, il y a eu une première proposition qui était de 40 000, il y a 160 000 personnes qui ont été, 120 000 qui ont été ajoutées. Donc aujourd'hui il y a une décision qui a été prise de relocaliser 160 000 personnes depuis la Grèce et l'Italie et sur deux ans, donc en 2016-2017. Donc les États de l'Union Européenne vont accueillir 160 000 personnes en 2016 et 2017. Pour la France ça représente un peu plus de 30 000 personnes sur deux ans. Donc en 2016-2017, la France va accueillir, donc elle accueillera chaque mois des personnes qui viennent de Grèce et d'Italie. Donc en Grèce et en Italie, il y a des centres qui se mettent en place, des centres d'enregistrement où on examine la situation des personnes et on voit s'ils semblent relever ou pas de la demande d'asile. Avec encore beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur ces centres d'enregistrement, sur comment on va déterminer s'ils relèvent de l'asile ou pas, comment on va leur laisser la possibilité de suivre une procédure d'asile, même si on pense qu'ils relèvent pas de l'asile, il faut quand même qu'ils aient toutes les garanties pour déposer leur demande au sens de la Convention de Genève et du droit européen. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore beaucoup de flou sur comment va se faire cette identification, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une identification et ensuite les personnes viennent dans les pays, sont acheminés par l'Union européenne et ils arrivent dans les pays. Là, les premières personnes sont arrivées cette semaine en France. Il y a eu 19 personnes qui sont arrivées en Loire-Atlantique depuis la Grèce. Et donc, une fois qu'elles arrivent en France, elles ont encore le statut de demandeur d'asile. Et j'en viens à cette distinction que j'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure. Il y a deux termes en France, dans le droit français et dans le droit européen. Il y a les demandeurs d'asile qui sont les personnes qui sont en cours de procédure pour savoir si oui ou non ils vont avoir droit à une protection. Donc ceux-là, ils sont en demande d'asile, ils sont demandeurs d'asile. Ils ont pour ça quand même une autorisation de la préfecture pour rester sur le territoire. Donc ils sont en situation régulière sur le territoire, c'est pas des sans-papiers, c'est pas des clandestins. Ils ont le droit d'être sur le territoire français et d'être accueillis dans des structures d'accueil pour demandeurs d'asile et d'être suivis, d'avoir un accompagnement social, administratif, etc. D'avoir une allocation si jamais ils sont pas hébergés, enfin voilà, d'avoir, il y a tout un tas de droits qui sont liés à ce statut de demandeur d'asile. Donc toute personne, tout étranger peut faire une demande d'asile en France. Pour ça, il y a pas de restriction. Tout à l'heure, on parlait des pays d'origine sûrs, peu importe, quel que soit le pays, on peut faire une demande d'asile en France. Par contre, après, quand on parle de réfugiés au sens juridique du terme, le réfugié, c'est les personnes qui ont eu au terme de la procédure d'asile une décision de l'État français qui leur accorde le statut de réfugié. Donc, c'est-à-dire que ces personnes ont ce statut administratif qui est un statut réfugié qui leur donne quasiment les mêmes droits que les Français, à part le droit de vote, puisqu'ils ne sont pas citoyens français. Donc, à part le droit de vote, sinon, ils ont les mêmes droits que les citoyens français, globalement. Donc, ils ont droit au RSA, ils ont droit aux aides.
Ils doivent rester en France ou est-ce que quelqu'un qui a eu le statut de réfugié dans un pays voisin de la France, imaginons en Allemagne, peut le garde dans toute l'Europe ou...
Non, c'est chaque pays qui accorde son statut. Après, il a les mêmes droits qu'un Français aussi, c'est-à-dire qu'il peut aller en Allemagne. Par exemple, quelqu'un qui a le statut en France, il peut aller en Allemagne, mais pas plus de 3 mois. Voilà, une fois qu'il s'installe en Allemagne, là, il doit faire une demande à l'Allemagne, mais il n'y a pas d'automaticité pour s'installer dans un autre pays. Il peut y aller, en gros, en tant que touriste, quoi. C'est-à-dire qu'il a une liberté de circulation dans l'espace Schengen quand il a son statut de réfugié. Mais il n'y a pas effectivement de reconnaissance entre les États. Et donc, on peut avoir le statut de réfugié, donc ça donne une carte de résident qui est valable 10 ans. Qui globalement ensuite permet d'accéder à la nationalité française si on le souhaite. Enfin, une fois qu'on a le statut de réfugié, au niveau statut administratif, il y a plus de soucis pour les personnes qui ont le statut de réfugié. Même si, comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore tout un travail. Parfois, les personnes pensent que c'est bon, on a le statut de réfugié, c'est fini. Et puis en fait, il faut encore trouver un logement, un emploi, alors que le diplôme qu'on avait dans le pays, il est pas reconnu en France. Enfin, il y a encore plein de difficultés. C'est pour ça qu'à Forum Réfugié Cosy, on a toute cette activité d'intégration pour les personnes qui ont le statut de réfugié, parce que c'est tout un enjeu aussi. Et puis, pour la société française en général, hein, que les personnes qui ont le statut puissent ensuite s'inscrire dans la société française. Donc, il y a le statut de réfugié et il y a le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est l'autre statut dont je vous parlais tout à l'heure, pour les personnes qui rentrent pas dans les motifs de la Convention de Genève, mais à qui la France donne quand même une protection, parce que traitement inhumain ou dégradant, torture, conflit ou risque de peine de mort, ces personnes ont la protection subsidiaire qui est un titre de séjour d'1 an. Et après, il faut le faire renouveler. Globalement, c'est un titre qui est renouvelé hein, quand même, mais c'est un titre qui donne un peu moins de droits du coup que le statut de réfugié. Donc il y a aussi un enjeu hein, en termes de protection, de savoir vers quoi on va aller en termes de protection. En France, on donne encore beaucoup le statut de réfugié, mais la tendance dans les pays européens, c'est de glisser de plus en plus vers la protection subsidiaire, qui est quand même une protection un peu moins importante que le statut de réfugié traditionnel de la Convention de Genève.
Qui n'est pas pérenne, en fait.
Voilà, qu'il faut tous les ans. Donc, potentiellement, au bout d'un an, l'instance nationale peut examiner la situation dans le pays et dire bah, la situation s'est améliorée, on vous enlève le statut et vous devez rentrer dans votre pays. Donc ça donne quand même moins de perspectives d'avenir pour les personnes, mais c'est quand même une protection. Donc l'an dernier, en France, il y avait à peu près 65 000 personnes qui ont fait une demande d'asile et en global, à peu près 30%, un peu moins de 30% qui ont eu une protection. Et pour terminer ce terme, la question de réfugiés, c'est vrai que souvent on entend parler de réfugiés au sens commun du terme. On peut aussi utiliser, je dis on peut parce que c'est vrai que juridiquement, un réfugié, c'est quelqu'un qui a le statut de réfugié. Mais dans le droit commun, un réfugié, c'est quelqu'un qui vient chercher refuge. Donc quelqu'un qui a commencé une demande d'asile ou même qui a pas commencé de demande d'asile, quoi. C'est-à-dire qui arrive en Europe ou qui arrive en France et qui fuit son pays parce qu'il vient chercher refuge en France parce qu'il fuit son pays. On utilise souvent le terme de réfugié et les médias, mais pas que les médias. Il y a aussi d'autres associations qui parlent de réfugiés. Nous, on préfère parler de réfugiés. C'est vrai que quand on des personnes qui ont le statut de réfugié, pour être plus précis quand même sur les statuts juridiques. Mais en tout cas, souvent, vous pourrez entendre, voilà, il y a un afflux de réfugiés en Europe. Un afflux de réfugiés, c'est pas un afflux de personnes qui ont la carte de réfugié et le statut de 10 ans. C'est un afflux de personnes qui cherchent refuge en Europe.
Je pense qu'on continue après une pause musicale.
A música nordestina pode vir a ser no século XXI o que o blues e a música norte-americana foi no século XX para o mundo ocidental. Pourquoi La France m'a donné tout ce qui me manquait, tout ce dont je rêvais chez moi. La France m'a donné tout ce qui me manquait, mais je rêve ici de là-bas.
Pourquoi faut-il quitter son pays? esta França minha amada, ter a lua prateada e o sol sempre a brilhar. Mesmo sabendo que encontrei outra morada, meu desejo e o meu sonho é voltar pro meu lugar. Qua fotil que te son pei, salangue se parran ses amis.
Donc vous êtes toujours sur Le Grain de Sable sur Radio Canu, donc avec notre invité Laurent Delbos de Forum Réfugiés, et nous venons d'écouter Les Bombes de Balles, pourquoi faut-il quitter son pays. Alors on a beaucoup parlé là des différents termes et des différents statuts de demandeurs d'asile, réfugiés, et là en fait il y a la réforme du droit d'asile qui se met en place depuis la loi de juillet 2015. Alors elle était antérieure aux événements dont on parle de 2014 et 2015. Donc, elle consiste en quoi et qu'est-ce qu'elle change?
Alors, c'est une loi effectivement qui est impulsée avant tout par une obligation au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes qui ont changé au niveau européen, des directives qui imposent aux États d'avoir un cadre commun du droit d'asile dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a des directives qui ont été revues en 2011 et en 2013 et qui devaient être transposées par les États avant le 20 juillet 2015. Donc, c'est un cadre qui était posé déjà, sur lequel il y avait beaucoup de choses qui étaient imposées par le droit européen, donc sur lesquelles, malgré tous les débats qu'il y a pu y avoir, en réalité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre.
Parce qu'on parlait des négociations, mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui existent.
Oui, oui, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Les négociations qu'on évoquait tout à l'heure au niveau européen, c'est pour permettre d'amener les personnes d'un pays à l'autre. Ça, aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme qui existe comme ça. Donc ça, c'est nouveau, la relocalisation. Mais sinon, au niveau européen, il y a déjà, depuis le début des années 2000, toute une volonté d'avoir un système d'asile européen commun, avec un droit d'asile qui soit avec des procédures et des conditions d'accueil, etc., qui soient les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne. On en est encore très loin, hein, mais en tout cas, au niveau des textes, il y a des textes qui imposent aux États d'avoir les mêmes textes. Après, les textes et la réalité, c'est autre chose. Mais sur la réalité, il y a encore des divergences énormes. Mais en tout cas, pour revenir à la loi française, donc effectivement, il y a ces textes qui imposaient de mettre en place certaines dispositions. Et puis, il y a un contexte en France aussi qui était un contexte d'augmentation importante du nombre de demandeurs d'asile, des procédures qui étaient de plus en plus longues, donc du coup, qui entraînaient beaucoup de problèmes en chaîne, des conditions d'accueil qui étaient insuffisantes, des personnes qui, du coup, une fois qu'elles avaient le statut, ça allait bien. Une fois que si elles ne l'avaient pas, devaient être... éloigné, ou en tout cas il devait y avoir quelque chose qui était mis en place par l'État, qui avait beaucoup de mal, parce qu'une fois que la personne est restée 2 ans, 3 ans à scolariser ses enfants, la logique d'un point de vue humain est plutôt qu'elle reste en France et qu'il y ait des choses qui sont mises en place en France. Mais du coup, ça ne suivait pas entre ça et la réalité juridique de ces personnes. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur le terme de débouté. C'est un autre terme qu'on n'a pas cité. On parle des déboutés, c'est les personnes qui ont eu un rejet de leur demande d'asile et qui sont du coup déboutées du droit d'asile et qui peuvent avoir droit à la régularisation à d'autres titres, mais qui rentrent plus dans le cadre du droit d'asile.
La procédure peut durer combien de temps? 2 ans?
Alors la procédure en moyenne en 2014 a duré 13 mois. En comptant la première instance, qui est une administration qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, où ça durait à peu près 7 mois et 6 mois devant la Cour nationale du droit d'asile pour les personnes qui font un recours. Donc on avait une durée de procédure moyenne de 13 mois. Mais au-delà de cette procédure moyenne, il y avait ensuite des personnes qui mettaient beaucoup de temps à s'inscrire dans la demande d'asile parce qu'il fallait une domiciliation. Donc j'en viens à qu'est-ce que change la réforme. Pour s'inscrire dans la demande d'asile, avant il fallait une domiciliation auprès d'une association. Dans certains départements, ça mettait plusieurs mois. parce que les associations qui étaient agréées étaient complètement débordées et du coup il fallait
mais il y a bien des associations agréées dans tous les départements,
oui, pour faire la domiciliation spécifique pour les demandeurs d'asile. Mais avant c'était un préalable à l'enregistrement de la demande, c'est-à-dire que la préfecture n'enregistrait la demande que s'il y avait une domiciliation associative qui était proposée, enfin la personne se présentait avec un document. Et dans certains territoires ça pouvait mettre plusieurs mois, donc ça s'ajoutait aux 13 mois dont je viens vous parler tout à l'heure. Ça pouvait mettre 4 mois, 5 mois, 6 mois des fois. Sur des personnes qui du coup n'étaient pas encore enregistrées en tant que demandeurs d'asile, donc il n'y avait pas encore le statut de demandeur d'asile. Donc la loi, ça fait partie des améliorations, supprime cette obligation de domiciliation. Ça n'empêche pas qu'il y a un droit à la domiciliation pour les personnes, donc les associations comme Forum Réfugiés qui assuraient la domiciliation avant, on va toujours assurer la domiciliation, mais c'est pas un préalable à l'enregistrement de la demande d'asile. L'autre, sur l'accès à la procédure, un des autres changements, c'est que la préfecture est tenue d'enregistrer la demande dans un délai de 3 jours. C'est-à-dire que là aussi, il y avait un temps qui n'est pas compté dans les 13 mois aussi, qu'il faut ajouter, qui était les personnes arrivées en préfecture pour dire « je veux demander l'asile », on leur disait « revenez en préfecture dans 2 mois pour retirer votre dossier de demande d'asile ». J'ai 2 mois, voilà, c'est un exemple, mais c'était, ça pouvait mettre plusieurs semaines et parfois quelques petits mois. Donc qui s'ajoutait à la domiciliation, qui s'ajoutait à tout ça, voilà. Donc du coup, là, il y a une obligation qui là aussi est issue du droit européen. À partir du moment où la personne se présente en préfecture ou dans un autre service qui est désigné par la préfecture pour dire je veux demander l'asile, sa demande doit être enregistrée dans un délai de 3 jours par la préfecture. Donc au bout de 3 jours, elle doit avoir le document qui montre qu'elle est demandeur d'asile. Sur la question des conditions d'accueil pour les personnes qui sont demandeurs d'asile, la loi met en place un schéma national d'accueil. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui étaient gérés au niveau national, à peu près 25 000 places, et des places d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, ça représentait un peu plus de 20 000 places, qui étaient gérées au niveau local.
Il y avait une différence. Souvent, l'urgence, c'est temporaire, non?
C'était ça. C'était, en fait, c'était les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est des centres médico-sociaux qui sont habilités pour 15 ans, enfin, qui sont des structures sur le long terme. Et les centres d'urgence, effectivement, c'était chaque préfecture, en fonction des arrivées, des besoins du territoire, qui mettait en place des dispositifs d'urgence. Donc, ça peut être soit des centres qui sont proches des CADA, presque, c'est presque des CADA, même s'ils n'ont pas le statut. Et parfois, c'est des choses beaucoup plus précaires, du style nuitée d'hôtel ou des choses comme ça, sans accompagnement lié à l'hébergement. Donc là, il va y avoir un schéma national d'accueil, c'est-à-dire que au moment où on va instruire la demande de la personne, on va lui proposer des conditions d'accueil. L'Office français pour l'immigration et l'intégration, l'OFI, va avoir non pas seulement à sa disposition les 25 000 places de CADA, mais les 25 000 places plus les 20 000 places d'hébergement d'urgence. Donc il va avoir beaucoup plus de possibilités, ça va être géré au niveau national. Ça implique aussi que les personnes vont pouvoir être davantage orientées vers un autre département que le département de leur arrivée. C'est ce qu'on a appelé l'hébergement directif dans la réforme de l'asile. Voilà. Hébergement directif qui suppose qu'il y a un nombre de places quand même assez important. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est davantage dans une situation où la personne dit « je veux un hébergement » et la préfecture dit, ou l'OFI dit « j'ai pas d'hébergement pour vous ». Donc la question des personnes qui diront « je veux un hébergement » et on dira « je vous envoie à l'autre bout de la France » et la personne dira « non, c'est trop loin pour moi », on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on a un déficit de places d'accueil, même s'il y a des créations de places importantes qui ont été annoncées. Ça fait partie aussi de la réforme de l'asile, de créer des places d'accueil, même si c'est pas dans la loi sur l'asile, c'est fait partie du mouvement de réforme, de la prise de conscience des pouvoirs publics qu'il y a un manque de places d'accueil aujourd'hui pour les personnes.
Et qui va les créer?
Parce que là, l'État principalement, c'est l'État qui, c'est une mission de l'État, hein, de gérer les demandeurs d'asile, et c'est pas une mission des collectivités territoriales. Donc c'est l'État qui finance ces places, soit des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, soit des centres d'hébergement d'urgence sur le budget lié à l'asile. Donc rien que sur cette année, il y a un peu plus de 8000 places qui ont été créées. Donc voilà, on était à 25000, on en rajoute 8000 et l'année prochaine, il y aura encore un mouvement de création de places de l'ordre un peu moins de 5000 places qui seront créées aussi en 2016. Donc il y a quand même une prise de conscience sur quelque chose qui était demandé depuis des années. On était autour des 20000 places depuis plusieurs années qui correspondaient pas du tout à la situation. Et l'autre particularité, c'est que toutes les personnes, quel que soit le type de procédure, ont le droit d'être hébergées. Puisqu'il y a des procédures normales et des procédures qui sont des procédures accélérées. Tout à l'heure, on parlait des pays d'origine sûre. Quelqu'un qui est d'un pays d'origine sûre, par exemple, il est placé en procédure accélérée. Donc sa procédure est traitée plus vite. Jusqu'ici, les personnes en pays d'origine sûre n'avaient pas droit aux conditions d'accueil. Elles n'avaient pas droit d'être hébergées. Là, elles auront droit aux conditions d'accueil au même titre que les autres. Elles pourront être en CADA ou en centre d'hébergement d'urgence. Elles auront droit à l'allocation comme les autres. Il y a une nouvelle allocation aussi pour demandeurs d'asile. Avant, il y avait une allocation qui s'appelait l'allocation temporaire d'attente et l'allocation mensuelle de subsistance. Là, une nouvelle allocation unique pour tout le monde qui s'appelle l'allocation pour demandeurs d'asile. Au niveau des conditions d'entretien et d'instruction de la demande, il y a aussi la possibilité nouvelle pour les demandeurs d'asile d'être assistés pendant leur entretien à l'OFPRA par un tiers. Ça peut être soit une personne d'une association qui est habilitée, soit par un avocat. Jusqu'ici, l'avocat, c'était possible uniquement devant la Cour nationale du droit d'asile, mais pas devant l'OFPRA. Là, la personne pourrait être assistée par un tiers à l'OFPRA, même si se pose encore la question des moyens, parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont venus avec ça, donc il n'y a pas d'aide juridictionnelle, il n'y a pas de moyens qui sont donnés aux associations. Donc aujourd'hui, ça reste un droit qui est assez théorique, mais qu'on espère faire évoluer vers quelque chose de plus concret, qui donne vraiment des garanties supplémentaires à la personne, qui évite le face-à-face entre l'officier de protection et la personne, qui est parfois ressenti par les personnes, parfois à juste titre, comme un interrogatoire de police où c'est compliqué. Le fait qu'il y ait un tiers à l'entretien, ça peut quand même ajouter une garantie importante pour que la personne puisse exprimer son récit.
Et qu'elle ait pu vraiment s'exprimer.
Voilà, qu'elle ait pu vraiment s'exprimer.
Mais oui. Pour cette phase-là, il n'y a pas forcément l'aide juridictionnelle. C'est ce que
non,
vous venez de dire.
Il n'y a pas d'aide juridictionnelle, il y a droit à un avocat, mais pas d'aide juridictionnelle. Pour l'instant, en tout cas, c'est le combat que vont mener les avocats pour tenter d'obtenir l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas encore les moyens.
Parce que pour la Cour d'appel, il y a bien l'aide juridictionnelle.
Voilà, pour la Cour nationale du droit d'asile, il y a l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas pour l'aide devant l'OFPRA, donc effectivement, pour l'instant, c'est réservé aux demandeurs d'asile qui ont les moyens de se payer un avocat. Donc, ce qui n'est pas le cas en général pour les demandeurs d'asile. Et un autre axe important pour terminer sur la réforme, c'est la question de l'accélération des procédures. Donc l'aspect positif, c'est qu'effectivement les procédures, tout à l'heure on disait c'était trop long pour tout le monde, c'est-à-dire que c'était trop long pour l'État, mais aussi pour les demandeurs d'asile. Voilà, d'être dans une attente de, parce qu'on disait tout à l'heure une moyenne de 13 mois, mais la moyenne par définition, il y en a ça va plus vite, mais il y en a aussi ça va c'est plus long quoi. Et donc il y a des personnes qui attendaient 3 ans, des personnes qui étaient en demande d'asile depuis 4 ans, 5 ans, enfin des situations vraiment vraiment longues.
Des familles aussi.
Voilà, des familles qui étaient dans une situation effectivement où elles savaient pas dans quelle était la perspective d'avenir pour elle. Du coup, l'accélération des procédures, ça se caractérise par un point qui est les procédures accélérées dans la loi, qui remplace ce qu'on appelait avant les procédures prioritaires. Il y a beaucoup plus de 4 procédures accélérées. Donc ça, c'est un point qui est plutôt un point de vigilance pour Forum Réfugiés, où on va essayer de voir comment ça se met en œuvre. Mais on était assez critique sur ce point dans la discussion, parce que les procédures accélérées, ça représentait déjà un tiers des demandes en 2014, avec beaucoup moins d'hypothèses qui permettaient de placer en procédure accélérée. Là, il y a une dizaine d'hypothèses qui permettent de placer en procédure accélérée. Alors, ça va des pays d'origine sûre. Il y a une liste de 16 pays où dans lesquels, si vous venez de ce pays, vous serez en procédure accélérée. Mais ça peut aussi être des personnes qui sont en France depuis plus de 120 jours et qui n'ont pas déposé de demande d'asile. Donc, on va les mettre en procédure accélérée parce qu'on estime que quand on demande l'asile, on cherche la protection, on la demande directement. Ce qui est globalement vrai, mais c'est pas le cas pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui ont pu ne pas être bien informées, arriver dans une situation de précarité qui leur permet pas de demander l'asile. Voilà, donc il y a tout un tas d'hypothèses qui vont permettre à la préfecture ou à l'OFPRA de placer les personnes en procédure accélérée, ce qui va impliquer un traitement accéléré de leur demande à l'OFPRA et surtout à la Cour nationale du droit d'asile, qui devra statuer en 5 semaines. C'est-à-dire qu'en 5 semaines, elle devra convoquer la personne, lui nommer un avocat si la personne demande l'aide juridictionnelle, tenir l'audience, instruire la demande et rendre une décision. Donc le risque, c'est d'avoir des dossiers qui soient traités un peu trop rapidement et de façon un peu expéditive, alors que toute personne doit pouvoir voir sa demande d'asile traitée au fond avec des garanties procédurales consistantes. Donc ça, on verra ce que ça donne, mais voilà, il y a une extension des procédures accélérées. Et en contrepartie, et ça nous semble positif par contre, des moyens supplémentaires qui sont accordés à l'OFPRA avec recrutement d'officiers de protection. Donc il y a une capacité de traitement qui sera plus importante, et à la CNDA aussi. Donc l'accélération des procédures qui devrait quand même permettre aussi qu'il y ait plus de personnes hébergées, parce que ça veut dire que les personnes vont rester moins longtemps dans l'hébergement, un taux de rotation plus important, etc. Donc voilà, c'est pas parmi les grands axes. Après, les autres points, c'est les conditions d'accueil. Je reviens juste aux conditions d'accueil très rapidement pour dire qu'il y a aussi globalement une baisse de des prestations dans les CADA qui se profilent. Pour l'instant, c'est en train de se préciser. C'est partie des dernières circulaires dont on vient de prendre connaissance. Mais jusqu'ici, les CADA aider pour l'aide au recours devant la CNDA, par exemple. Dans les nouveaux cahiers des charges qui sont en train d'être publiés, il n'y a plus cette aide qui est dans les CADA. Donc l'idée aussi, c'est de l'État, c'est un peu de faire des économies aussi sur les conditions d'accueil, sur les conditions d'hébergement, c'est de créer des places, mais en contrepartie, c'est des places où les personnes sont un peu moins bien accompagnées. Donc c'est aussi un sujet de préoccupation pour Forum Réfugiés.
Il y a un accompagnement aussi social, il y a des assistants sociaux. Des assistantes sociales.
Voilà, on permet aussi aux personnes d'ouvrir leurs droits, de scolariser leurs enfants, etc. Voilà. Ça reste hein, dans le nouveau cahier des charges, mais c'est plutôt sur l'accompagnement juridique et l'aspect animation aussi qui est réduit, alors que c'était aussi un point important pour la vie du centre, mais aussi pour la vie avec l'environnement local, d'avoir cette animation.
Et justement, en parlant d'animation, on a vu qu'avec ce qui s'est passé cet été, il y a eu une mobilisation citoyenne forte, on en parlait. Et donc, comment s'inscrit Forum Réfugiés là-dedans? Est-ce que vous avez des demandes, que ce soit de communes ou de personnes qui disent, je voudrais aider, comment je peux faire?
Alors, effectivement, depuis cet événement médiatique dont on a parlé tout à l'heure de début septembre, la publication de la photo de l'enfant échoué sur la plage, il y a eu une forte mobilisation, dont beaucoup de gens qui se sont tournés vers les associations, donc notamment Forum Réfugiés, hein, pas seulement évidemment, mais donc Forum Réfugiés a reçu beaucoup de sollicitations de particuliers qui souhaitaient savoir comment nous aider. Donc pour aider Forum Réfugiés Cosy et du coup par ricochet aider les demandeurs d'asile et les réfugiés, nous ce qu'on propose aux gens c'est nous informer par internet, on a une page qui est dédiée au bénévolat, et ensuite de nous expliquer un peu ce qu'ils sont prêts à faire, du temps qu'ils ont, des compétences qu'ils ont, et on verra ensuite, on voit ensuite en fonction des demandes ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut mettre ces bénévoles et leur permettre d'aider les réfugiés et demandeurs d'asile. Donc on est preneur de toute proposition de bénévolat dans tout domaine, hein, que ce soit, on peut en parler de l'événementiel, la communication, ça peut être dans ces domaines-là, plus
vous
de support.
Vous parliez également de cours de français, justement.
Voilà, ça peut aussi être des personnes qui viennent donner des cours de français dans les centres pour demandeurs d'asile, pour les résidents ou pour leurs enfants en attendant une scolarisation. Ça peut être pour faire de l'animation, justement, parce que je vous disais que ces prestations ont pu être financées. Donc ça peut aussi faire partie des besoins qu'on a dans les centres. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller sur la page de Forum Réfugiés, donc forumrefugiés@.org. Sur forumrefugiés.org, il y a une page contact et n'hésitez pas à nous écrire à ce sujet-là. Il y a aussi des personnes qui ont formulé des propositions d'hébergement. Donc pour les propositions d'hébergement, c'est un peu plus compliqué, mais on est aussi preneur de ces propositions, en particulier pour les personnes qui sont réfugiées, donc qui ont eu le statut pour nos dispositifs d'intégration. Là, elles ont plus droit à des conditions d'accueil. Elles ont droit à aller dans des centres provisoires d'hébergement, mais il y a que 1500 places pour à peu près 15 000 personnes qui ont le statut chaque année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont le statut de réfugié, qui sont en recherche d'hébergement. Donc, pour ces personnes, dans l'attente d'un logement un peu plus pérenne, ça nous intéresse d'avoir des propositions de logement sur lesquelles on peut orienter les personnes. Ça c'est pour le mouvement citoyen, et après effectivement il y a beaucoup de communes, de maires, etc. qui se sont mobilisées, et ça nous a permis aussi d'accélérer beaucoup de choses, notamment parce que jusqu'ici on avait beaucoup de mal à... L'État nous disait on veut bien ouvrir des places de CADA ou des places pour les réfugiés, on allait voir les communes disaient non, on veut pas trop sur notre commune, etc. Ça a permis d'avoir une oreille beaucoup plus attentive de la part des élus, et puis des élus qui du coup ont aussi sont venus vers nous en disant on a des places ici pour créer des centres, et on a des places de logements vacants pour les personnes qui sont réfugiées, puisque les personnes réfugiées cherchent des logements comme toute personne en France qui cherche des logements. Mais la particularité, c'est que souvent, ils sont prêts quand même à une certaine mobilité géographique. Donc pour ça, c'est intéressant pour nous qu'il y ait des maires qui viennent et qui nous disent dans notre commune, on a des logements vacants qui prennent pas la place des logements qui sont demandés par les Français, contrairement aux idées reçues parfois. C'est des localités dans lesquelles les personnes françaises qui font une demande sont logées dans la semaine, dans les 15 jours qui viennent, mais il y a des logements vacants. Donc du coup, dans ces communes, on a eu des propositions aussi intéressantes. Et voilà, ça demande beaucoup de travail, mais c'est une mobilisation qui est intéressante, qui devrait permettre de débloquer pas mal de choses, en particulier dans la perspective des arrivées 2016-2017, de relocaliser, qui vont de fait augmenter le nombre de personnes qui arrivent en France.
Merci beaucoup. Et on vous dit à dans 15 jours où on aura comme invité l'épicerie séquentielle pour évoquer les BD sur les rues de Lyon. Et encore merci à Laurent Delbos et à dans 2 semaines.
Merci.